Dans le livre de Psaume chapitre 106, on a déjà lu en complet. Alors pour le message, on va être dans Psaume 106 et on va parler de la motivation de la louange. Et si je parle un peu plus vite, c'est pour peut-être deux choses, parce que pour le français, c'est pas mon première langue, et aussi Sébastien va traduire pour mes beaux-parents en anglais. Alors je dois parler pas trop vite, afin qu'ils puissent le traduire. Mais gloire à Dieu, parce que le gloire, c'est pas à moi, c'est à Dieu, et c'est toujours bon d'être dans la maison de Dieu et de le louer. Mais on va voir, comme c'est le thème du mois d'août, Christ notre louange. Et j'ai hâte pour le message parce que le texte, c'est dans Exode 15, verset 2, je pense, Christ est ma louange. Et c'est juste après les enfants d'Israël à traverser la mer Rouge. Et l'histoire dans notre texte de 106, c'est l'histoire de la mer Rouge dans les psaumes. Et on voit un problème que les enfants d'Israël avaient. Un problème de louange, un problème de leur motivation de louange. Alors on va relire juste à verset 12 et verset 13, parce qu'on a déjà lu le chapitre en complet. Mais juste pour le texte, on va lire verset 12 et 13. Et ça dit: et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Ce verset-là, c'est presque le même verset de Exode 15, verset 12, quand les enfants d'Israël chantaient après avoir traversé la mer Rouge. Il dit: Christ est notre louange. Ils crurent à ses paroles. Ils ont cru ce que Jésus a dit, Dieu a dit pour eux. Mais ça dit en verset 13 après: mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Et la première voix que ces versets m'a frappé, c'est dans verset 12, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. C'est une bonne chose. Dieu est bon. Dieu nous a délivrés. Ben, justement après, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Quel est le problème ici dans cette histoire? Ben, je vais commencer avec plusieurs questions pour vous. Qu'est-ce que vous voulez voir que Dieu fasse dans cette église? Est-ce que vous avez des désirs pour Dieu faire? Est-ce que tu vois qu'on voit des visiteurs dans l'église? Est-ce que tu veux que quelqu'un soit sauvé dans cette église, que les âmes soient baptisées? Est-ce que tu veux voir un réveil ici au Canada, ici au Québec? Amen. Tu veux voir les bonnes choses que Dieu peut faire, Dieu est capable à faire. Maintenant, ce sont toutes des choses merveilleuses que Dieu pourrait faire. Et des choses pour lesquelles nous devrions louer le Seigneur. Et c'est bon, c'est évident, oui. Mais j'ai une autre question. Quelle est votre priorité dans votre vie spirituelle? Dans votre relation avec Dieu? Quelle est votre priorité? La première priorité de la vie chrétienne est de glorifier Dieu. Nous étions formés pour vivre pour la gloire et la louange de Dieu. Ça dit en Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 12: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. La priorité de la vie chrétienne est de glorifier Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. C'est pourquoi Dieu nous a aimés. Pour sa gloire, pas pour nous. Alors, je te demande si c'est la priorité quelle est la façon la plus simple pour chaque chrétien de glorifier Dieu? Et je dis que c'est de te louer, de le louer, de louer Dieu. Quand un chrétien loue Dieu, c'est la plus facile façon de glorifier Dieu. Ben, pour le faire un full circle, les choses qu'on veut que Dieu fasse dans cette église, les choses merveilleuses, les visiteurs, les âmes sauvées, le réveil, les bonnes œuvres de Christ, et on loue le Seigneur pour ça. Et on a une partie de la priorité de la vie chrétienne. Mais quand les œuvres arrêtent, s'il n'y a aucun visiteur à l'église, qui personne n'est sauvé ici, qui n'est aucun baptême, si ce n'est pas un réveil, si on vit dans les temps mauvais, dans les temps de difficultés, dans les épreuves, dans les tribulations, est-ce que vous allez louer Seigneur en ce moment-là? Et c'est le problème, si tu loues le Seigneur, si tu ne loues que le Seigneur quand c'est bon, tu arrêtes de vivre la priorité, la raison d'être pour être un chrétien, si tu ne loues que quand c'est bon. Et je dis que votre louange est le reflet direct de votre foi. Ben, qu'est-ce qu'est la foi? Il y a plusieurs définitions pour la foi. Ça dit croire ce que Dieu dit. Ben, c'est bon, mais c'est trop simple, cette définition, de croire ce que Dieu dit. Parce que je pense que la vraie foi, ce n'est pas de croire que Dieu peut, mais agir comme s'il le fera quelque chose. Le salut, ce n'est pas juste « oui, je crois que Dieu peut me sauver, mais je vais agir comme si c'est vrai. » C'est l'illustration de s'asseoir dans une chaise. « Oui, je crois que la chaise peut me tenir, mais ce n'est pas la foi jusqu'à ce que je me sois là et j'agis comme si c'est vrai. » Et c'est la vraie foi. La foi véritable, biblique, est une action ou un engagement personnel qui est fondé sur les promesses de la parole de Dieu, influencé par elle. Je vais le dire encore. La foi véritable et biblique est une action ou un engagement personnel qui est fondé sur les promesses de la parole de Dieu et influencé par elle. Ce n'est pas la vraie foi si ça n'affecte pas votre vie. C'est un engagement basé sur la vérité. Il y a une chanson en anglais, Obedience is the very best way to show that you believe. L'obéissance est la meilleure façon de montrer que tu crois. La foi, c'est l'obéissance. Sans l'obéissance, ce n'est pas la foi. Alors, je te demande, quelle est la motivation de votre louange? Pourquoi est-ce que vous louez le Seigneur? Je pense que trop de chrétiens louent Dieu pour ce qu'il fait et pas pour ce qu'il est. Est Dieu bon? Mais est Dieu bon quand il ne fait pas des bonnes œuvres? Oui, Dieu est encore et toujours bon. Romains 10, 17 dit pas, ainsi la foi vient de ce qu'on voit, et ce qu'on voit vient de les œuvres de Christ. Non, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsqu'on voit dans la parole de Dieu que Dieu est bon, même s'il ne fait pas des grandes œuvres dans nos vies, on va encore louer le Seigneur et accomplir la raison d'être pour être un chrétien, de glorifier Dieu. Alors êtes-vous motivé par les produits de Dieu ou par ses promesses? Par ce que Dieu fait ou par ce qu'il est? Et on va voir dans le texte ce matin quatre vérités pour chaque chrétien concernant la foi et la louange. La traduction, est-ce que c'est bon? Désolé. Alors, on va voir premièrement l'importance de la louange. L'importance de la louange. On va voir un verset 1 à 5. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. On voit premièrement l'importance de la louange. C'est important, on peut dire, de louer Seigneur. Le mot « louange », au moins en anglais, parce que j'ai cherché en anglais, ben, le mot en anglais « louange », en chaque forme, c'est trouvé 313 fois dans la Bible. Le mot grec, c'est « epinos », ça vient de « epi », qui veut dire « approprié ». Et ce mot « epi », ça intensifie le mot « einos », qui est « louange ». Alors, le mot en grec pour la louange, « epinos », c'est la reconnaissance de ce qui mérite des louanges. C'est pour donner la gloire pour ce qui est digne de louange, comme ça dit en notre cantique favori, « Tu es le Christ, tu es le seul digne de louange ». C'est ce que veut dire pour louer, c'est pour donner la gloire à ce qui mérite. Ça dit en Apocalypse 4 et 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pour dire, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. C'est le mot louange. On voit beaucoup dans l'Écriture le mot louange, l'importance de louange. Et on ne va pas lire tous les versets que j'ai écrits, parce que ça sera trop long. Mais je vais lire plusieurs versets. Alors, c'est difficile de suivre peut-être, alors je vais juste les lire et tu peux écrire les textes si tu veux les voir plus tard. Ésaïe 43 à 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » C'est-à-dire en psaume 39 à 13, « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle la fidélité? Écoute l'Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu me sens de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Psaume 34, verset 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 104, 33 à 34. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles, lui, soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. » Le même mot dans le verset 8, 15, 21 et 31 de Psaume 107. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. En psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et on ne va pas lire pour le temps, mais psaume 148 jusqu'en 150. Psaume 150. Les trois derniers chapitres de la livre de psaume. Ça parle beaucoup de la louange. Mais on va juste tourner à psaume 150. Juste pour voir l'importance de la louange. C'est pas trop long. On va lire juste le chapitre de psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'attendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Je pense que c'est évident dans l'Écriture que la louange, c'est quelque chose d'important pour les enfants de Dieu. C'est important de louer notre Dieu. Mais on voit, deuxièmement, l'iniquité du peuple. Parce qu'on a lu les premières cinq versets, louer l'Éternel et toutes les bonnes œuvres de Dieu, mais puis on vient à verset 6, ça dit, nous avons péché. On parle de la louange de Dieu, puis nous avons péché. Qu'est-ce qu'est le péché? Ça dit, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils oublièrent les œuvres de Christ. Ils ne se rappelèrent pas à la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Quoi était l'iniquité? L'iniquité, c'était l'iniquité d'incrédulité. Qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. C'est que dans la Bible, il parle de le péché impardonnable, qu'il y a un péché impardonnable, mais j'ai pensé que Dieu pardonnerait tout péché. Ça, c'est quoi d'un péché impardonnable? Ça dit en Matthieu 12 et 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ben, ça c'est quoi le blasphème contre l'Esprit? C'est l'incrédulité. Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre, si quelqu'un ment, si quelqu'un vole quelque chose, n'importe quoi, péché qu'on commet, c'est pardonnable. Mais si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est pas pardonnable. C'est pour dire qu'on n'est pas un pécheur à cause qu'on pêche, mais on pêche à cause qu'on est déjà un pécheur. C'est pas le pêche qui envoie quelqu'un en enfer. C'est le fait que les hommes ont rejeté Dieu. C'est la cause que nous étions morts dans nos péchés. C'est aucune chose qu'on peut faire pour sauver soi-même. C'est à cause de Christ. Et si quelqu'un reste dans l'incrédulité, si quelqu'un reste dans le fait de « Non, je ne crois pas en Dieu », c'est le péché impardonnable. Alors, ce n'est pas quelque chose que doit rester le même toujours. C'est toujours le temps dans ce monde pour croire en Dieu. C'est toujours le temps. Et c'est gloire à Dieu pour le fait qu'il n'est pas revenu encore à cause que c'est encore les gens qui peuvent être sauvés, qui peut croire, qui peut repentir de la pêche impardonnable. Mais comment est-ce que les enfants d'Israël ont commis cette iniquité? En croyant pas en Dieu, en croyant pas ce que Dieu a dit. En psaume 78, ça dit, « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le sang d'Israël. » Le mot en plusieurs versions en anglais dit de limiter. Ils ont limité Dieu. Dieu était capable de faire beaucoup de choses pour eux. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils traversèrent pour 40 années dans le désert. Ce n'était pas le dessein de Dieu, mais c'était à cause de leur incrédulité, à cause qu'ils n'ont pas cru en Dieu. L'incrédulité de ne croire pas. Ça dit en Matthieu 13, verset 58, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Mais pensez de ce que quand Jésus était dans la terre, C'était possiblement les aveugles, les muets, les gens morts qui pouvaient être guéris. Mais à cause qu'ils n'ont pas cru, ça passait pas. Mais ben, passe maintenant dans nos vies. On veut voir les choses merveilleuses qu'on a parlé auparavant, les visiteurs, les gens sauvés, le réveil. Et on louerait le Seigneur pour ça. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible? Dieu ne va pas faire quelque chose si tu ne crois pas. Ça dit en Hébreu 11 et verset 6, et, mon beau-père avait un ministère de la radio avec son église en West Virginia. Et c'était ce matin qu'il a écouté et le pasteur a parlé de Hébreu 11 et verset 6. Mais je n'ai pas mémorisé en français. Est-ce que quelqu'un l'a mémorisé en français? Ben, ça dit en Hébreu 11 et verset 6. C'est par la foi... Non, c'est verset 11. C'est verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez-vous? Ou commettez-vous le péché impardonnable? Le doute empêchera Dieu d'agir dans votre vie. Le doute vous fera oublier les promesses que Dieu vous a faites. Alors c'est pourquoi je te demande, est-ce que vous louez le Seigneur pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Parce que si vous louez que quand Dieu fait les œuvres, oui, j'ai la foi. C'est comme les enfants d'Israël, et on va voir ensuite. Le problème intrinsique numéro 3, on a vu le péché, l'iniquité des peuples, l'iniquité de doute, d'incrédulité. Mais le problème intrinsique, c'est que les enfants d'Israël ne louaient que quand Dieu faisait une œuvre. Tu vois dans l'histoire, gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés de la mer rouge de l'Égyptiens. J'ai vu les Égyptiens, c'était dans l'eau, mais puis les eaux ont les couverts et ils ont tout meurt. Waouh, gloire à Dieu pour ça. Louez l'Éternel. Oh, ben maintenant, on n'a pas de l'eau à boire. On est dans l'eau Mérib. C'est amer, Moïse. Tu nous as quittés d'Égypte. Mais au moins là, on avait des bonnes choses à manger. Mais maintenant, oui, Dieu a tué les Égyptiens, oui, il a parti les mers rouges, mais maintenant, on n'a pas beaucoup à boire. On n'a pas quelque chose à manger. Je ne crois pas maintenant. Je loue pas le Seigneur maintenant. Oh, maintenant, il a fait quelque chose. Il nous a donné les oiseaux à manger, la manne à manger. Oh, gloire à Dieu. Je n'aime pas encore. Ça ne goûte pas bon. C'est la même chose chaque jour. Dieu n'est pas bon. Je ne louerai pas le Seigneur pour 40 années, comme on a vu et on va pas lire encore, mais il croit et loue le Seigneur, il l'oubliait. Il croit quand Dieu faisait une œuvre, mais il ne croit que quand Dieu faisait quelque chose. C'était le problème intrinsèque. Nous disons que nous marchons par la foi et non par la vue, mais le faisons-nous vraiment? Et je crois que cela sera prouvé par nos louanges. Comme je disais, votre louange est le reflet direct de votre foi. Est-ce que tu vas louer le Seigneur en tout temps? Quand c'est bon, quand c'est mal, quand Dieu fait quelque chose, quand ça paraît pas que Dieu est avec vous. Et c'est quand tu restes dans la parole de Dieu, parce que Dieu a dit ces choses. Il t'a donné ses promesses qu'il ne t'abandonnerait point. Hébreux 13, verset 5. Qu'il pourvoit pour tous tes besoins. C'est pas qu'on voit les choses, mais c'est dans la Bible. Et quand tu recentres dans la Bible et recentres dans la parole de Dieu, et votre foi sera recentrée dans ce qui Dieu est, à cause de la parole de Dieu, vous louerez en tout temps. Et vous accomplirez la raison d'être un chrétien, de glorifier Dieu. Quelqu'un a dit, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Mais ce n'est pas une bonne phrase. Dieu l'a dit, c'est réglé. Et ensuite, nous pouvons le croire. Ce n'est pas basé sur notre croyance, c'est basé sur qui Dieu est. Et on a vu beaucoup d'exemples dans l'Écriture, la création. Josué et Jéricho, les 300 de Gédéon, Élie, le huile et farine qui n'arrêtaient pas, le ravin qui nous a apporté la nourriture dans la famine. David et Goliath, Daniel, et beaucoup d'histoires dans la Bible, mais nous servons le même Dieu qui a accompli toutes ces choses. Montrez-moi un homme qui loue Dieu dans les moments difficiles, je vous montrerai un vrai homme de foi. Quand Job a dit, voici, quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Shadrach, mais c'est écrit en anglais. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est différent en français, je sais, mais tu les connais. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais après, ils ont dit, mais si toi, sache, ô roi, nous ne te servions pas. Nous servons le Seigneur. Cette fois, c'est la voix que loue le Seigneur, n'importe quoi se passe. Et maintenant, tournez dans 1 Pierre chapitre 1. Connaissez-vous le passage? 1 Pierre 1 et versets 3 à 8. Oups, c'est 2 Pierre. 1 Pierre. Et c'est bon de voir les mots aussi, de comprendre les versets. Écoute bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Regarde ça. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Regarde, ça dit, en croyant, vous croyez, vous réjouissant d'une joie merveilleuse. Pourquoi est-ce qu'on peut réjouir? C'est par croyant. Comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur en tout temps? C'est par la foi. Pas par ce qu'il fait, mais à cause de qui il est. Parce que Dieu est bon. Et dernièrement, quatrième point dans notre texte de Psaume 106, on voit la promesse infinie. Dans versets 42 et à 45. Les versets au milieu, ça parle de le « je crois » ou « je crois pas » et tout ça. Mais au fin 42, ça dit « leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, ils les délivrèrent, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Mais il vit leur détresse lorsqu'il entendit leur supplication. Il se souvint en leur faveur de son alliance. » Son alliance pour les peuples d'Israël. C'était la promesse pour les peuples d'Israël de les apporter à la terre promise. Quand le mer rouge était fini, ben c'était un autre problème, un autre défi. C'était pas la fin d'histoire. C'était pas le but que Dieu avait pour les peuples d'Israël. C'était les promesses, l'alliance pour les peuples d'Israël. Il eut pitié selon sa grande bonté. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captif. Et au fin, ça dit en verset 48, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, loué l'Éternel. » Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas les enfants d'Israël. Alors, c'est quoi pour nous maintenant? Comment est-ce que nous pouvons l'appliquer à notre vie? Quelle est l'alliance que Dieu a pour vous et pour moi? Le salut. Quelle est la fin de votre salut? La glorification. Et on peut voir à travers toute l'Écriture la promesse qui commence en Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était le proto-évangélium, the first gospel, le premier évangile. La promesse d'un Messie, d'un sauveur. Et on voit l'alliance pour Noé et pour Abraham et pour David et les alliances de Dieu. En Exode chapitre 6 et verset 4 à 5, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. » Et c'est ça là, dans le verset 45. « Ils se souvint en leur faveur de son alliance. » Ben, tu sais quoi? Si les enfants d'Israël n'oublieraient pas l'alliance, ils ne cesseraient point de le louer. Parce que ce n'est pas quand Dieu fait des œuvres, c'est les promesses. Alors je te demande, est-ce que vous louez le Seigneur pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il a dit et qu'il est, pour les produits de Dieu et les promesses de Dieu? Parce que oui, il y a des tribulations dans le monde. Il y a des épreuves. Ça disait dans 1 Pierre, verset 1, « S'il faut qu'on ait attristé pour un petit temps, à cause de le résultat de ça, c'est pour la louange de Dieu. » Parce qu'au fin de jour, nous serons au ciel. Et quand on garde ça dans tes pensées, quand on n'oublie pas la fin d'histoire, c'est pas facile de louer Seigneur. Dieu, j'ai beaucoup de misère. J'ai beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup de défis. J'ai des ennemis. Mais en fin de jour, je serai au ciel. Et on peut louer le Seigneur. Deux derniers passages qu'on va voir ensemble dans Romains chapitre 8. et juste lire ces passages avec les pensées de ce qu'on a parlé ce matin, de louer le Seigneur à cause qu'il est et réjouir dans le Seigneur. Romains chapitre 8. Commence à verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, pas, ça ne dit pas sans toutes ces choses, ça dit dans toutes ces choses. Avec les tribulations, avec les épreuves, avec les difficultés et les défis. Quand même, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand on rappelle de ça qui est écrit là, on peut louer. Même si ce n'est pas bon. Et dernièrement, Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Ça, c'est la fin de l'histoire. Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule qui personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de paumes, et des paumes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et de quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est la fin de l'histoire. C'est la promesse de Dieu. C'est qui Dieu est. Et c'est pourquoi on peut louer n'importe quoi se passe. Quelle est la motivation de votre louange? On voit Christ notre louange. La vie de Christ qui demeure en nous. Et si c'est vrai, c'est centré sur les promesses de Dieu, c'est sur ses paroles de Dieu, sur ce qui Dieu est. Et Christ sera notre louange en tout temps. Et gloire à Dieu pour ça. Et qu'on vient maintenant à la tombe de prière, à la tombe de répondre à un message et pour donner la gloire à Dieu et pour louer l'Éternel ensemble en tant qu'Église, avec un sourire, avec joie. Sans l'avoir vu, ça dit en Pierre 1. On n'a pas vu Dieu, mais on réjouit quand même en croyant en Dieu. Prions. Ô Seigneur, je te remercie pour ce bel matin dans ta parole et merci pour pour toutes tes promesses. Merci que tu es bon, même si tu ne fais pas des bonnes œuvres, même si ce n'est pas évident que tu fais des bonnes œuvres, parce que tu toujours fais des bonnes œuvres, parce que n'importe quoi qui passe, nous sommes sauvés. C'est la plus grande œuvre du monde. Et comme la chanson en anglais dit, « Any doubt that you loved me was settled at the cross. » N'importe quel doute que tu m'as aimé, c'était réglé à la croix. Et merci qu'on peut te louer en tout temps à cause de qui tu es. Et merci Seigneur que c'est pas la fin d'histoire. qu'on a la prédestination d'être semblable à toi. Notre glorification à cause de toi et pour ta gloire. Bénis ce temps de prière maintenant. Bénis ce temps de te louer ensemble. Nous t'aimons abondamment, Seigneur. Merci pour cette glorieuse vérité dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous voulez prier, vous avez l'occasion de faire maintenant.